Ça, vous parlez de Duchamp. Cette notion de performance vous semble aussi un élément constitutif de votre art.
C'est assez difficile parce que dans le spectacle, la performance est de fait sur le plateau. Donc on ne peut pas travailler de la même manière que les plasticiens ou les arts visuels cette notion de performance. Parce que finalement, si je voulais beaucoup simplifier, la performance est une théâtralisation des œuvres plastiques. Mais nous, on est déjà dans le théâtre. Donc la notion de performance a moins de sens. Elle en a encore, par exemple, chez Jérôme Bell avec la danse. Et c'est remarquable de ce point de vue-là. Mais je pense qu'au théâtre, on est trop proche de la performance pour être dans cette notion-là.
Quand on regarde le décor, j'ai pensé à une grande photo de Jeff Wall, Destroy Room. On a l'impression d'abord d'être dans une chambre, presque la mansarde archétype, et mais qui est déjà dans un foutoir. Est-ce que cette notion du foutoir, qu'est-ce qu'elle veut dire?
Alors, ça encore, si on revient à Duchamp et à cette toute petite œuvre qui est constituée de poussière, je ne sais pas si vous la connaissez.
Oui, je connais très bien, oui.
Qu'y a-t-il de plus désordonné qu'un morceau de poussière? Donc cette notion d'ordre et de désordre, je pense que l'art englobe aussi bien l'une que l'autre et parfois peut même les conjuguer. Donc on ne s'est pas posé cette question-là. Et je pense qu'on traite les deux choses, c'est-à-dire qu'il y a dans la mise en scène des moments de grand désordre que certains trouveront foutraque. Mais par exemple, si vous voyez le troisième acte, on est dans quelque chose d'extrêmement rigoureux par rapport à Puccini. Il n'y a pas une seule note étrangère à Puccini, donc la contrainte est très forte, y compris au niveau de l'écriture musicale et d'abord au niveau de l'écriture musicale. Et pourtant, j'ai juste fait dérailler la musique de Puccini en ajoutant à cette matière entièrement déjà composée simplement une chose, le fait que je l'ai fait perpétuellement glisser comme un vertige perpétuel. Alors c'est quelque chose que Ligeti a beaucoup développé et sans doute que ça vient de là en ce qui me concerne. Mais conjuguer ce vertige infini, des glissando infinis, des glissendi infinis, avec la musique de Puccini, ça crée un nouvel objet qui, à mon avis, est singulier et se détache ou synthétise, mais il synthétise à la fois mon influence, l'influence que j'ai vécue à travers la musique de Ligeti, et puis cette nostalgie parfaitement assumée et pas passéiste, je le crois. C'est même le contraire du passéisme, c'est une nostalgie saine, hein. C'est simplement ce que disait Sade, être fasciné par le passé, être excité par le présent et ne pas avoir peur de l'avenir. C'est comme ça que je vois ma relation au répertoire.
Pourquoi ces deux Mimi?
Alors ça, c'est une construction, disons, dramaturgique assez simple et qui me permet d'écrire la musique que je souhaitais écrire. Donc un livret qui ne s'oppose pas à la musique, mais qui au contraire lui permet de se développer naturellement. Ça a l'air d'être une évidence, mais très souvent, la lutte entre le livret et le compositeur produit beaucoup de tensions. Là, avec cette idée de Bastien Gallet, j'étais sûr que je pouvais écrire exactement la musique que j'aurais écrit, idéalement sans la contrainte de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire et le projet musical ne font qu'une seule chose. Je n'ai donc pas à raconter l'histoire, j'ai juste à écrire ma musique. C'est ça qu'on cherche en permanence à faire. L'histoire avance toute seule sans que j'ai besoin de l'aider. Et moi, je fais la musique que j'ai envie de faire, même sans avoir la contrainte de raconter l'histoire. Du coup, il y a une assez grande liberté. Les deux Mimi, c'est évidemment le désir de rassembler dans une seule partition eh bien, ce qui fait mon histoire personnelle, c'est-à-dire que mon père vient de la chanson populaire et j'ai fait des études on ne peut plus académiques. Et donc, ça me permet de rassembler ces deux cultures et je pense que c'est mon identité.
C'est deux vocalités.
C'est deux cultures et deux vocalités par conséquent. Mais ce qui, à mon avis, se passe bien depuis Second Woman et à nouveau avec Mimi, c'est que même si c'est des cultures qui ne sont pas directement compatibles, et même si je les associe, je considère toujours qu'elles ne sont pas directement compatibles, mais on peut en revanche les articuler dans une forme théâtrale sans conflit. Et personne, y compris les détracteurs de ce projet, personne ne m'a dit que cette juxtaposition ne fonctionnait pas. À la fin, on entend Camélia Jordana murmurer toutes les dernières phrases du quatrième acte de Puccini. Elles sont pratiquement toutes présentes. Ça n'a plus rien à voir avec la technique vocale d'une soprano. Et pourtant, c'est toujours aussi juste sur le plan de l'émotion simple de quelqu'un qui perd à la fois la vie et l'amour en même temps.
Et en cela, le personnage de Gertrud serait la réconciliation de ces deux femmes?
Alors, presque, mais ce qui est assez amusant, c'est que on a été marqué par la figure de Nina Hagen. Et Nina Hagen a une formation de chanteuse lyrique. Et elle mélangeait avec un charme et une folie incroyable, c'est toutes les techniques. Et Caroline Rose, qui a beaucoup écouté Nina Hagen aussi, s'en est souvenue. Et effectivement, il y a peut-être une synthèse dans ce personnage de toutes les voix possibles. Parce qu'elle est capable techniquement d'emprunter à toutes les vocalités. À elle seule.
C'est l'amour sacrifié.
Oui, c'est vrai. Alors, il faudrait voir peut-être quelque chose de symbolique.
Et le couple qui semble plus naturaliste, en fait, c'est le couple de Marcel et de Musette. Là, on a l'impression, je dirais même, on a côté presque Papageno, Papagena. C'est le couple idéal, puisqu'il n'y aura pas de conflit. Ils vont s'aimer, ils savent exactement ce qu'ils veulent. C'est peut-être ceux qui vont le plus droit à leur propre désir.
Très juste du point de vue théâtral, et en même temps, ce sont les personnages les plus superficiels et les plus factices et les plus artificiels. Et donc, ils existent de manière très linéaire, très droite, comme vous dites, très logique au théâtre, mais dans la vie, ils n'existent pas.
Alors la musique, il y a un côté très très diffracté, disséminé, mais en même temps on retrouve l'idée d'échantillonnage qui me semble toujours présente, l'idée de replay, de delay, toutes les formes que l'on utilise en fait dans le domaine de la musique électronique se trouvent réinvesties dans la musique instrumentale.
Oui, oui, c'est très juste. Je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre des musiques de tradition orale. C'est le projet de Bartok, puis sans doute d'autres avant. On peut, à partir du moment où on refuse, disons, une posture intellectualiste de départ, alors on se rend compte que la musique écrite, et parce qu'évidemment, il faut qu'elle devienne écrite pour avoir sa valeur, puisque c'est mon métier d'écrire et je ne suis pas un musicien de tradition orale. Mais évidemment, et ça sera toujours vrai, la tradition orale venant enrichir la tradition écrite, c'est toujours c'est le mélange des eaux, quoi. C'est extrêmement riche et ça fonctionnera toujours.
Peut-être pour finir, dans la musique telle qu'elle est présente, il y a la question de l'enregistrement. Le haut-parleur occupe une grande importance. Dès la deuxième scène, la musique s'efface, la musique instrumentale s'efface au profit d'un jeu de miroir qui se projette complètement dans la salle.
C'est aussi une réflexion sur l'archéologie discographique. Parce que un des drames de Bohème, c'est qu'il est monté sans cesse. La plupart du temps, ses productions n'ont pas d'intérêt artistique et abîment l'œuvre, ils l'usent. À côté de ça, on a aussi un certain nombre d'enregistrements magistrales, évidemment Pavarotti, Callas, etc., pour ne citer que les deux plus connus. Enfin bon, il y a la version Villazzone-Nebretko qui est assez magnifique pour la décennie récente. Mais nous, on ressent beaucoup le fait que ces œuvres sont quotidiennement massacrées par les habitudes et par les petites productions avec les mauvais chanteurs, etc. Donc on voulait montrer qu'il ne restait que 2, 3, 4 versions qui aient du sens et que tout le reste n'en a aucun. Y compris quand c'est un grand chef, j'entends régulièrement des grands chefs diriger Bohème, ça n'a aucun intérêt, la mise en scène est ridicule, ils n'ont pas le bon âge, enfin, c'est grotesque. Et donc on voulait évidemment rester fidèle à ces grands interprètes qui marqueront à jamais l'œuvre. Et en même temps, ça avait une fonction théâtrale assez efficace qui était de passer du support à la réalité du plateau. Et très souvent, quand ces citations arrivent, on s'en sert aussi pour faire glisser le spectacle de l'audio au plateau, du plateau à l'audio. Comment ces personnages n'ont vraiment été forts qu'au moment de l'enregistrement en 1950 ou en 1964 et depuis n'ont pas retrouvé cette force-là. Comment les faire venir à nous et puis ensuite nous revenir au plateau et dire tout à fait autre chose, parce qu'on sait que c'est peine perdue d'essayer de retrouver l'intensité de la création de la Bohème ou l'intensité des très grandes interprétations. Donc c'est pour nous une sorte de reconnaissance envers les très grands interprètes de Bohème, et aussi pour immédiatement après s'en dissocier, parce qu'on n'est pas du tout dans cette démarche de vouloir reproduire à l'infini ces œuvres qui sont régulièrement dans toutes les productions de chaque année, de tous les opéras, et qui n'ont plus aucun sens. Je pourrais peut-être conclure là-dessus, c'est le même problème qu'avec la Joconde finalement. La seule chose qui a du sens, c'est par rapport à la Joconde, c'est le travail de Warhol. Et quand aujourd'hui les gens passent devant la Joconde, ils la photographient, ils la font passer à travers le scanner de leur téléphone portable, et ils ne voient pas l'œuvre. Ils sont loin de l'œuvre, ils la voient pas, ils ne la comprennent absolument pas. Ils ne font pas le lien avec le reste de l'œuvre de Da Vinci. Pour terminer sur un élément qui, moi, me fait sourire, j'ai un ami qui a fait un court-métrage qui, à un moment, met en scène la Joconde. Et des gens passent devant, on est censé être au Louvre, hein, donc c'est la vraie Joconde. Ils passent devant, ils sont deux, et l'un dit à l'autre « Ah, regarde, c'est la Joconde !» Et l'autre le pousse par l'épaule en le tirant dans une autre pièce, vers une autre pièce, lui dit « Non, non, c'est un faux, c'est un fake. »
Merci.